Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Pour cette édition, nous allons aider au festival Bonus organisé par le Théâtre de Poche et le Joli Collectif pour y rencontrer Thomas Gonzalez qui, avec Igor Cardellini, ont proposé un spectacle intitulé L'Âge d'Or, consistant en une visite touristique et archéologique d'un centre commercial, à savoir la galerie marchande Grand Quartier à Saint-Grégoire. Une visite singulière, et bien il va nous en parler et nous l'a présenté. Donc, ce spectacle, L'Âge d'Or, c'est tout de suite sur Univers 99.9. Alors, nous sommes au festival Bonus du théâtre organisé par le théâtre de Poche de Hédé. Et je suis avec Thomas Gonzalez. Bonjour.
Bonjour.
Thomas Gonzalez qui, avec Igor Cardellini, voilà, vous avez donné une journée d'un spectacle particulier qui s'intitule L'Âge d'Or, qui est un parcours dans le centre commercial Grand Quartier, qui est une balade touristique, c'est ainsi que c'est présenté sur le... Vous venez de l'université de Lausanne, c'est bien ça, et vous travaillez notamment avec Igor Cardellini, qui est universitaire en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de L'Âge d'Or, et tout simplement, pourquoi le titre L'Âge d'Or ?
L'Âge d'Or, c'est donc un projet de performance visite guidée dans trois types d'endroits, les banques, les immeubles de bureaux et donc les centres commerciaux. Mmh. À chaque fois, dans ces différents endroits, on propose un thème principal. Donc, dans le centre commercial, c'était la consommation de masse. Dans la banque, c'est la finance et le capital. Et puis, dans l'immeuble de bureau, c'est le salariat, le travail. C'est des piliers ou en tout cas, c'est des thèmes qui caractérisent la société dans laquelle on vit. Et pourquoi l'âge d'or ? Parce que les bâtiments dans lesquels on évolue, les banques, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux, sont fortement influencés des valeurs et des idéologies des 30 Glorieuses. Ce moment où, en fait, tout semblait possible, l'abondance, la consommation de masse était accessible à tout à chacun. Et du coup, c'est vrai qu'on met toujours en rapport ces différents endroits avec l'idéologie des 30 Glorieuses. Mmh.
Est-ce que vous pourriez nous parler du dispositif dans lequel finalement les spectateurs deviennent eux aussi acteurs ?
Oui, alors c'est des petits groupes de spectateurs-spectatrices, 20 personnes qui sont guidées par une guide, Dominique, qui leur parle en fait à travers un micro. Et donc chaque personne a un casque audio dans lequel il reçoit la voix du guide. Et c'est vrai qu'en même temps qu'on traverse ce centre commercial et qu'on fait cette visite guidée, on est en fait soi-même acteur, actrice d'une autre force comme ça, puisque la visite reproduit quelque part les forces qui sont celles d'appel, qui sont celles de la consommation de masse. C'est-à-dire qu'on se retrouve à porter des produits qui font la pub pour des marques particulières ou à consommer soi-même. Donc en fait, la visite questionne en fait ces mêmes rapports de force en les reproduisant.
C'est une visite touristique, donc vous avez fait ça avec un anthropologue notamment. Est-ce qu'il y a l'idée...
Igor vient des sciences sociales et politiques.
Oui. Et des sciences sociales et politiques, mm-hmm. Est-ce que dans l'anthropologie, il y a cette idée de se faire étranger à l'anthropologie, c'est l'étude des sociétés autres, et donc on est étranger, on va observer... Voilà, des sociétés qu'on ne connaît pas, mais l'anthropologie contemporaine importe aussi dans le monde contemporain cette observation de se faire, avec ce point de vue, de se faire étranger à des lieux qui nous sont familiers, quotidiens. C'est un peu cette idée-là aussi que vous essayez de faire vivre à travers cette visite.
Exactement, c'est vrai qu'on a l'envie de proposer une défamiliarisation d'espace du quotidien. C'est-à-dire des endroits qu'on utilise pour leur fonctionnalité, c'est-à-dire on va faire des achats dans un centre commercial, on va dans une banque pour faire des opérations, mais ce n'est pas des endroits qu'on visite en tant que tel comme objet de patrimoine ou comme objet tout simplement de considération intellectuelle comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui nous intéressait. Et par rapport à l'anthropologie, c'est vrai qu'on propose un regard anthropologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une critique ou dans une célébration de ces endroits, on est vraiment dans une description dense qui veut comme rendre les différentes couches de ces espaces, en fait, et nous faire justement renouveler le regard sur ceci.
Est-ce que vous pourriez parler de la place du public? Vous en avez parlé un petit peu, mais des spectateurs, quel rôle sont-ils amenés à jouer? Et finalement, est-ce que ce ne sont pas eux qui deviennent le principal sujet de...
Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'en fait, la logique même de la performance telle qu'on la conçoit, c'est qu'en même temps que les spectateurs, spectatrices suivent le guide, eux-mêmes sont en train de réaliser une performance quelque part. Et là, typiquement, dans le groupe, il y a des moments où on est plutôt passif à écouter, mais déjà le simple fait de venir dans un centre commercial pour faire cette performance, quelque part, ça raconte quelque chose. Le fait de prendre un moment pour s'oublier sur de la musique et se laisser complètement aller aux appels de la consommation. Oh pardon, je vais reprendre. S'oublier un moment sur... Finalement, se laisser aller aux appels de la consommation sur de la musique dans un magasin de vêtements, ça raconte aussi quelque chose, en fait. Et c'est vrai qu'on veut que les spectateurs, spectatrices soient aussi actifs dans cette visite.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on y voit, justement? Qu'est-ce que vous cherchez à montrer aux spectateurs?
Ce qui nous intéresse, il y a deux choses. Déjà, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est de singulariser le groupe aussi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on regarde le centre commercial, on est énormément regardé. On se singularise par le fait de porter des casquettes. Donc on devient un groupe qui visite un centre commercial, ce qui souvent apparaît risible ou fait rire, en tout cas, les gens qui fréquentent le centre commercial comme clients. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse par rapport à la question d'avant. Toujours pour en revenir à l'anthropologie, on cherche à comprendre en fait comment la manière dont un centre commercial est comment la manière dont les centres commerciaux sont construits, c'est façonné, en fait. Donc on remonte au premier modèle, par exemple, Southdale, le premier centre commercial construit par Victor Grün, et on cherche les similarités ou non de ce modèle dans les copies, dans la copie, par exemple, qui est Grand Quartier aujourd'hui. C'est un modèle globalisé dont on retrouve certaines choses de ce Southdale d'origine. Et on réfléchit, par exemple, aussi au design des vitrines, comment elles sont pensées. Donc en fait, c'est vraiment... En fait, les choses nous apparaissent comme ayant toujours été comme ça, mais comment, en fait, des dispositifs se sont mis en place pour maximiser la vision et donc favoriser la consommation, comment la circulation est pensée dans un centre commercial, comment toutes ces choses, en fait, comment l'univers dans lequel on évolue a été réfléchi et dans quel but, pour quel dessin.
Donc, pour donner des exemples, on va traverser différents magasins. Il va y avoir une sorte d'analyse ou de regard sur ce que les vitrines nous disent. C'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples?
Oui, il y a un moment où on regarde en fait la vitrine d'une chaîne, d'une grande chaîne de vente de vêtements, et qu'on analyse en fait comme un tableau en fait dans un musée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une analyse des différents plans, du premier plan, de l'arrière-plan. Et à réfléchir, en fait, quels sont les symboles qui sont convoqués, pour quel but, en fait, sur la clientèle. Qu'est-ce qu'on veut faire sentir à la cliente ou au client quand il se projette, en fait, sur ces mannequins. Et il y a un moment, donc, justement, où le public regarde une vitrine, il y a un moment où on traverse un autre magasin de vêtements sur de la musique, donc c'est un moment un peu plus récréatif, comme ça. Il y a un moment où on est amené, en fait, à réfléchir à quels sont les produits qui nous attirent spontanément dans un supermarché. Et puis la visite mélange à la fois savoir que transmet le guide et moment plus participatif, justement.
J'imagine que pour mettre en place un spectacle comme ça, ce sont des lieux très contrôlés. Comment on fait? Parce qu'il faut le rappeler, ce sont des lieux privés. Avec toute une sécurité, avec des caméras, avec un regard permanent. Est-ce que vous révélez aussi dans ce spectacle cette dimension-là de ce lieu qui est un lieu marchand, mais un lieu de contrôle aussi très fort?
On le dit au moment où on rentre dans le centre commercial que c'est un endroit dans lequel tout est sous contrôle. La température, la circulation, la manière dont le regard du client doit se poser sur ce qui l'entoure. Et pour travailler dans ces endroits, on est toujours, en fait, la première démarche, en fait, c'est celle de contacter la direction du centre. Là, à Grand Quartier, c'était plus facile parce que c'était des gens qui ont été très ouverts au dialogue et qui sont eux-mêmes dans la recherche d'activités, en fait, à proposer à leurs clients. Et aussi parce qu'il y avait une direction centralisée. Ça peut arriver que ce soit plus difficile de savoir quel sera l'interlocuteur, l'interlocutrice, mais là, ça a été assez facile. Et puis donc, on commence par ça. Puis une fois qu'on a l'autorisation de la direction, bah, c'est plus facile d'aller voir les différents magasins pour leur dire, ah, on aimerait passer chez vous. C'est vu avec la direction. Est-ce que ça vous pose problème ou pas?
Quelles sont les conditions, justement, avec un lieu comme celui-ci, pour ces lieux-là, c'est des moyens de communication, de publicitaire aussi?
On en joue dans le spectacle. À la fin du spectacle, on propose justement que la photo de groupe devienne soit mise en réseau, enfin soit mise sur les réseaux du centre commercial. Donc on transforme quelque part les spectateurs et spectatrices en hommes et femmes sandwich. Ça, c'est notre volonté. Et puis, vous posiez la question de... Pardon, l'autre... Après, il se trouve que là, la seule chose sur laquelle qu'on n'a pas pu réaliser pour cette visite dans ce centre commercial, c'était le fait d'aller dans les arrière-boutiques du supermarché. Et du coup, on le dit tel quel au groupe de spectateurs et on en fait un exercice de mentalisation. C'est-à-dire qu'on explique qu'on n'a pas pu y aller, pourquoi on n'a pas pu y aller et que du coup, on va proposer un plan B. Mais c'est vrai que normalement, on souhaiterait amener le public dans les arrière-boutiques, dans les stocks.
Vous parlez de l'âge d'or qui est un mythe aussi, un très ancien mythe qui remonte à qu'on peut retrouver à Hésiode, l'âge d'or, qu'est-ce que c'est justement?
Alors, tel qu'Hésiode le raconte, c'est cette vision de l'humanité qui partirait d'un âge où tout était possible, où les gens vivaient sans peine, où on avait accès justement à tous les fruits, à toute la nourriture possible, sans effort, sans avoir besoin de cultiver les champs. Qui se rapproche du jardin d'Éden, un peu dans la mythologie judéo-chrétienne, comme ça. Le mythe d'Hésiode, c'est donc que c'est une vision en fait d'un âge premier, primordial, comme ça, dans le développement de l'humanité, qui aurait été un âge où les êtres humains vivaient en harmonie avec la nature, où on vivrait quasiment éternellement, on n'aurait pas besoin de se donner de la peine pour trouver de la nourriture, où ça pousserait facilement, il n'y aurait pas besoin de cultiver les champs. Et puis l'humanité ensuite va traverser une suite d'âges de mal en pis un peu. On passe par l'âge d'argent, puis l'âge d'airain, je crois, ou de bronze, et de fer. Et en fait, progressivement, les conditions de vie deviennent de pire en pire, jusqu'à atteindre l'âge dans lequel on serait toujours, qui sera un âge dans lequel il y aurait beaucoup de violence, chacun se battrait pour ses propres intérêts. Et c'est ça le mythe de l'âge d'or. Et c'est un mythe auquel on fait appel en fait très souvent à un mythe auquel on revient. Peut-être qu'on va revenir à cet âge d'or. Peut-être que justement pendant les Trente Glorieuses, tout d'un coup, tout le monde va pouvoir acheter tout ce dont il a envie. Peut-être que c'est quelque chose qui nous attend avec telle ou telle révolution scientifique. C'est quelque chose auquel on revient.
C'est un lieu parmi d'autres. Là, vous avez choisi les centres commerciaux. Quelle est l'idée plus générale qui anime ces différents spectacles, performances?
C'est justement en fait de se montrer quelque part étranger à soi-même et étranger à sa propre société, c'est-à-dire réfléchir à comment la société dans laquelle on évolue est organisée en fait, en adoptant cette posture de touriste quelque part, touriste de soi-même, touriste de sa propre existence. Et en traversant, je l'ai dit au tout début, des thématiques très fortes en fait de notre société, le capital. Le salariat et la consommation. Et là, par exemple, on a fait une première visite en Suisse il y a quelques mois d'un bureau. Du coup, on parlait vraiment de l'organisation du salariat et c'était le bureau d'une assurance. Et on réfléchissait à comment les bureaux sont cloisonnés, plus décloisonnés, comment la surveillance ou l'autosurveillance opère, enfin voilà, ce genre de choses.
Quelles sont les réactions, aussi bien des gens qui viennent du public que des gens qui sont étonnés justement de voir un groupe déambuler, un groupe. Voilà, quelles sont les réactions des spectateurs et puis des spectateurs de spectateurs?
Alors les réactions de spectateurs, pardon, les réactions de spectateurs de spectateurs, on y a assez peu accès parce que comme on est un peu isolé par le casque. On voit plutôt des regards qui se posent sur le groupe, parfois des sourires aussi, mais c'est vrai qu'on n'y a pas plus accès que ça. Par contre, les réactions de spectateurs, Elle se porte souvent sur le fait que c'est très étonnant en fait de parcourir un centre commercial, peut-être dans lequel les spectateurs justement ont l'habitude de venir en tant qu'usagers, tout d'un coup de réfléchir à comment il a été construit, qui l'a construit pour quel, dans quel but, combien d'argent il a fait comme chiffre d'affaires, combien de personnes travaillent ici, enfin ce genre de choses. Donc c'est plutôt une grande curiosité.
Quels sont les différents spectacles que vous allez qui se profilent?
Donc le mois prochain, on fait une autre visite de centre commercial en Belgique, dans la ville de Gand. Et puis la saison prochaine, on préparera la visite de banque aussi, puis une visite de centre commercial en Suisse, et puis après d'autres visites en tournée en France, en Belgique et dans d'autres pays. Et puis sinon, on tourne un autre spectacle qui s'appelle Showroom, qui est un spectacle en salle de théâtre, du coup, et qui questionne le remplacement de l'humain par la machine et l'idée de progrès.
Très bien. Thomas Gonzalez, merci donc pour cet entretien donc autour du spectacle L'Âge d'or dans le cadre du festival Bonus du Théâtre de Poche de Hédé. Merci.